VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Il est 13h à Bujumbura, 12h à Bangui. Bonjour à tous. On commence par le Burundi. Des coups de feu dans plusieurs quartiers de la capitale Bujumbura depuis les premières heures de ce vendredi ont été signalés. La confusion est totale en ce moment alors que ce qui s'apparente à des combats se poursuit dans la capitale burundaise. Écoutons les précisions de notre correspondant Christophe Nkurunziza.
Bujumbura a dormi et s'est réveillé sous une pluie de tirs à l'arme automatique et de grenades. Tout le monde reste serré chez soi et les crépitements d'armes sont continus jusqu'à cette heure-ci. Et le bilan pourrait être lourd. Là où j'habite, on entend des cris des populations et des pleurs des habitants de la localité, car les forces de l'ordre restent essaient d'entrer dans les maisons. Et selon plusieurs témoignages au téléphone, deux camps policiers ou de militaires auraient été attaqués parce que le gouvernement qualifie d'insurgés.
Alors vous le dites, on parle de deux cas attaqués, mais ce sont juste des éventualités pour le moment. Ce qui est sûr, c'est que les tirs n'ont jamais baissé d'intensité, Christophe.
Totalement d'accord avec vous, parce que jusqu'à 7 minutes, là où on est, on entend des cris, on entend des tirs, on entend des crépitements d'armes. Et pour les gens, c'est dur pour les habitants des quartiers contestataires. Mais jusqu'à 7 minutes, on sent très bien que le pire peut arriver à Bujumbura.
Christophe Nkurunziza, correspondant permanent de VOA Afrique à Bujumbura, que nous avons eu il y a environ une heure. Vous l'avez dit donc, Christophe, deux camps militaires du nord et du sud de Bujumbura auraient été attaqués simultanément ce matin à l'aube. Des affrontements sporadiques se poursuivaient en début de matinée dans divers quartiers de la capitale burundaise. Selon des témoins, nous avons pu joindre un témoin parmi les habitants de Bujumbura. Il s'appelle Albin Isaac.
Les tirs ont commencé vers 3h du matin. Le camp ISCAM, Institut supérieur des cadres militaires, a été attaqué et le camp Mohara de Bujumbura ainsi que le camp Gagara. Jusqu'à présent, personne ne peut accéder à sa maison. Nous sommes tous à la maison. Seuls les militaires du camp présidentiel et la police de protection des institutions nous entourent et protègent surtout le palais présidentiel. Les tirs continuent, les bombes, les obus aussi continuent à sonner jusqu'à maintenant dans le cadre de Moussaga, Nyakabiga, les gens de Nyakabiga.
Alors, qu'est-ce que les autorités ont annoncé?
La radio-télévision du Burundi, aucun message n'a été donné parce que ni les porte-parole, aucune autorité ne peut pas accéder à sa maison. Tous se trouvent à la maison. Aucun parti ne peut pas passer. Aucune personne ne peut pas passer dans la route. Donc, tous se trouvent dans la maison. Donc, vous comprenez que tout se trouve dans les maisons et les bombardements continuent jusqu'à présent.
Est-ce que les militaires sont dans les rues?
Oui, pour nous, moi je suis à Kilili, donc nous sommes entourés par les soldats, donc les cas présidentiels et les policiers de la PI. Donc ils essayent de protéger le palais présidentiel, mais les tirs continuent à se bombarder dans le quartier de Moussaga, Gasekebouyi et Nyakabiga. Nyakabiga, les gens qui s'y trouvent crient au secours pour qu'il y ait un secours comme ça.
Un habitant de la capitale burundaise, Bujumbura, joint il y a quelques instants. Et ces combats sont les plus intenses depuis la tentative d'échouer de coups d'état militaire les 13 et 14 mai derniers. Les ambassades des États-Unis, de Belgique, de France et des Pays-Bas, ainsi que l'ONU ont appelé ce vendredi leurs ressortissants et employés à ne pas quitter leur domicile. Il est midi 3 minutes à Bangui.
VOA Afrique en direct de Washington.
En Centrafrique, le projet de constitution de la 6e République soumis à référendum dimanche prévoit une architecture institutionnelle classique avec en filigrane des références constantes à la corruption des dirigeants et à la prolifération des bandes armées qui ont abouti à la déliquescence de l'État et à des massacres intercommunautaires. Si le test est adopté, la Centrafrique va connaître son 13e régime politique depuis son indépendance de la France en 1960, illustration d'une instabilité chronique. La Centrafrique a déjà connu 5 républiques, un empire et 6 transitions après le renversement des pouvoirs établis, parfois eux-mêmes transitoires. Le procureur général de la République démocratique du Congo a sollicité auprès de l'Assemblée nationale la levée de l'immunité de 3 députés d'opposition qu'il veut poursuivre pour faux et usage de faux. C'est ce qu'a affirmé hier Aubin Minaku, le président de la Chambre basse, lors d'une séance plénière. Cette affaire intervient alors que le climat politique en RDC est très tendu. Depuis plusieurs mois, l'opposition soupçonne le président Joseph Kabila, au pouvoir depuis 2001, de chercher par tous les moyens à contourner l'interdiction constitutionnelle qui lui est faite de se représenter en 2016. En Angola, quatre opposants jugés depuis quatre semaines ont entamé une grève de la faim, cela pour exiger la conclusion rapide de leur procès. Les précisions, Lionel Gaïma.
Les quatre militants font partie d'un groupe de 17 leaders politiques de la société civile arrêtés en juin dernier sous l'accusation de rébellion et de tentative de coup d'État. Ils sont tous membres du mouvement révolutionnaire de l'Angola qui exige le départ du président Dos Santos au pouvoir depuis 1979. Dans une lettre ouverte au chef de l'État angolais, les militants avaient menacé d'entamer une grève de la faim si leurs interrogatoires n'étaient pas conclus en fin de semaine. Parmi eux, le rappeur Luati Beirao, dont l'épouse s'inquiète de l'état de santé. C'est très difficile pour les prisonniers, ils ont été en cellule d'isolement pendant près de 100 jours et ils ne voyaient le ciel qu'une heure par jour, a confié Monica Beirao à l'AFP, ajoutant que son mari était déjà fragilisé par une première grève de la faim. Les accusés nient toute intention de mener un coup d'État, assurant mener une lutte pacifique.
En Tanzanie, le nouveau président John Magufuli a présenté en partie son gouvernement hier. Il est bien resserré comme il avait promis pendant sa campagne électorale. Lady Isango.
Ce sera un gouvernement rétréci avec 19 ministres. John Magufuli en a nommé 15 et cherche à pourvoir 4 portefeuilles, dont ceux de finances et du tourisme. Les présidents tanzaniens avouent qu'il ne les a pas encore trouvés et demandent patience. Plusieurs ministères du gouvernement sortant ont été regroupés pour réduire les dépenses publiques. 7 ministres ont été reconduits, dont Hussein Mwinyi, fils du deuxième président de la Tanzanie, Ali Hassan Mwinyi, qui conserve son poste à la Défense. L'ancienne représentante de la Tanzanie aux Nations Unies, Augustine Mahiga, devient ministre des Affaires étrangères. C'est la seule entrée marquée dans la nouvelle équipe. Depuis sa prise de fonction début novembre, M. Magufuli a multiplié les initiatives pour combattre la corruption et les gaspillages. Il a remplacé les festivités de l'indépendance par une campagne de nettoyage. Il s'est mobilisé comme un citoyen ordinaire pour ramasser les ordures dans un marché aux poissons à Dar es Salaam.
VOA Afrique en direct de Washington.
La Tunisie a rouvert sa frontière terrestre avec la Libye, qu'elle avait fermée après l'attentat suicide du 24 novembre dans la capitale tunisienne, revendiqué par le groupe État islamique, a annoncé aujourd'hui le ministère de l'Intérieur. La décision de fermer la frontière avec la Libye pour au moins 15 jours avait été prise par le Conseil de la Sécurité nationale le 25 novembre, au lendemain de l'attaque suicide en plein Tunis contre un bus de la sécurité présidentielle qui a tué 18 agents. En Arabie Saoudite, fin hier de la campagne pour les premières élections ouvertes aux femmes candidates, mais les perspectives de voir les femmes élues samedi semblent très minces. Michel Joseph.
Plus de 900 femmes sont en lice face à quelques 6000 hommes pour siéger dans les 284 conseils municipaux du royaume, des assemblées chargées des rues, des parcs ou du ramassage des ordures. Ce scrutin est considéré comme un petit pas en avant vers l'égalité des sexes dans ce royaume ultra-conservateur qui était le dernier État à refuser aux femmes le droit de vote. Mais les Saoudiennes restent soumises à de nombreuses restrictions, comme l'interdiction de conduire, un cas unique au monde et qui pourrait empêcher une partie des électrices de se rendre dans les bureaux de vote. Oum Mohamed, qui habite à la frontière du Koweït, indique qu'elle ne pourra y aller que si son mari l'y amène ou si elle loue avec d'autres habitantes une voiture avec un chauffeur. Les Saoudiens ont déjà voté deux fois pour des municipales en 2005 et 2011. C'est cette année-là, dans la foulée des printemps arabes, que le roi Abdallah avait accordé aux Saoudiennes le droit de vote et d'éligibilité. Deux ans plus tard, il avait nommé pour la première fois des femmes au Majlis al-Shura, un conseil consultatif. Malgré ces avancées, seules 130 600 femmes se sont inscrites sur les listes électorales pour le scrutin de samedi, soit environ 10 fois moins que d'hommes, selon des chiffres officiels.
Michel Platini reste suspendu de toute activité liée au football jusqu'au 5 janvier 2016. Ainsi en a décidé ce vendredi le tribunal arbitral du sport, le TAS, à Lausanne en Suisse, dans le cadre de l'affaire du versement controversé de 1,8 million d'euros Un très mauvais signal pour Platini. Pour la suite de la procédure, la justice interne de la FIFA, qui a requis sa radiation à vie du monde du football, l'entendra sur le fond le 18 décembre, puis va rendre sa décision avant la fête de Noël. Jean-Roger Billon à ce micro. Merci de nous avoir suivis. Prochain journal dans 50 minutes avec Henri Francisque.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. Maven.